Alors, évidemment, le rôle de... On m'a assigné le rôle de modérateur. C'est évidemment pas du tout le rôle que je veux jouer parce que je n'entends pas qu'on puisse être modérateur de la parole de Rudy. En tout cas, ça serait bien décevant. Moi, ce que je voudrais juste dire en introduction, et puis après peut-être lancer cette conversation à propos de ton livre, dire combien, en tant qu'architecte, mais aussi enseignant, on va en parler... je suis heureux de t'accueillir. Ce n'est pas la première fois. Tu viens souvent à Bordeaux, tu y travailles. Mais il faut quand même resituer le travail d'écriture que tu mènes au regard de ton œuvre. Et je pense que si tu es tellement cher à ceux de ma génération, c'est pour des raisons très précises que tu décris dans tes livres, quelquefois avec violence, mais en tous les cas, pour des raisons très précises et qui touchent particulièrement l'architecte, mais aussi le provincial. La première chose que tu as dite en arrivant, je suis provincial. Ici, nous sommes en province. Et une autre chose que tu dis, c'est peut-être c'est assez facile de devenir architecte, mais c'est très difficile de le rester, en particulier en province. Parce que les aides techniques, les aides à tout point de vue sur la conception du projet sont plus raréfiées chez nous. Peut-être que l'État jacobin, qui est l'État français, amène plus de facilité au centre, à la capitale. Et on sait, nous, les provinciaux, combien il faut lutter, au fond, entre guillemets, parce que on peut aussi se moquer quelquefois des petites luttes par rapport aux grandes luttes d'antan. Mais en tous les cas, on sait que pour faire ce métier dignement, pour continuer à être architecte tous les jours, c'est, au fond, plus difficile en province que vers le centre. Voilà. Donc ça, tu l'as défendu dans notre génération. Je crois qu'on a fait connaissance au moment de l'exposition des 40 ans, emblématique de ce que nous sommes. Enfin, moi, je n'ai pas encore 60 ans. Toi, je crois que tu les as déjà.
Tu m'as fait remarquer.
La
hein.
Mais enfin, bon,
s'il peut faire de la marge, il prend de la marge.
Donc, j'ai cette question-là du courage, au fond, toujours entre guillemets, mais en tous les cas, dans l'exercice de ce métier d'architecte, c'est ce qui te ressemble le plus. Et puis. Autre chose, être architecte, tu l'as démontré récemment avec un savoir-faire qui nous a tous laissés par terre, loin derrière, je dirais, parisien ou provincial, c'est le MUCEM. C'est avant deux ou trois choses d'exception. Le jour où j'ai visité le MUCEM, je t'ai appelé, je t'ai dit, Rudy, tu viens de finir un monument historique. Et ce monument historique, ce n'est pas... parce que tu manierais un style particulier ou que tu aurais une écriture qui tout d'un coup s'imposerait dans ce moment, maintenant et pour le futur. C'est parce que, et je te demanderai d'abord de parler de ça, parce que le travail que tu décris, qui est ce travail de la matière, qui est ce travail du compagnonnage, qui est ce travail du chantier, c'est le premier moment où on peut dire que tu es architecte, c'est là, c'est ce que tu décris avec force au milieu de tout un discours politique, etc. Mais d'abord, si, après que tu as parlé maintenant de tout ce que tu veux, mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur cette valeur centrale de notre métier, comme tu l'as fait non seulement par les mots, mais par deux ou trois projets, et notamment le projet pour Presles-Locage, le pavillon noir, qui est une pure merveille initiatique, et récemment, avec cette ouverture du MUCEM, qui, je le dis, nous laisse par terre, nous, mais tous, beaucoup, loin, et y compris des architectes de l'étranger dont tu te charges de tailler les croupières à longueur de page. C'est quelquefois injuste, mais c'est quelquefois une juste revanche, pas une vengeance, hein, quelque chose qui est conquis de haute lutte, qui est de dire, regardez, moi, de Bandol, j'existe, Rudy Ricciotti, de Bandol.
Dis-moi, Olivier, là, avant de saigner... Je vois que tu as noté des pages d'un très vieux livre qui n'est plus.
Ah, je l'ai gardé.
Je pense qu'il y a des passages qui doivent te plaire, que tu vas citer, non?
Je vais les citer, en particulier sur l'enseignement, mais uniquement avec permission.
Ah, c'est vrai que ça... Mais je me suis calmé. Hein.
Oui, c'est vrai, ça c'est plus...
Mais je vois qu'il y a des passages que tu as... C'est un vieux livre, il a 10 ans. Hein. Et c'est vrai que je vois que tu as souligné la fornication de l'architecte et de l'artiste ne peut produire que des mulets stériles. À l'image de leur nature. qui, tout en leur accordant sexe et sexualité, leur interdit la procréation. Évidemment, dans cette partouze mettant en scène deux mammifères de la famille des équidés, c'est l'architecte des grandes oreilles. À cette époque-là, j'étais vraiment désespéré. Hein. C'était bon, quand même.
C'était bon. Hein. Je l'ai rapporté pour ça. J'ai retrouvé avec mes gens.
Lis les passages qui te plaisent.
Non, après,
si, mais si, un peu pour rigoler. Moi, j'ai pas de la sorte. Juste, je lis ça. Parce que là, c'est un dialogue avec un vicomte, David Desquenvilles. C'est incroyable, il n'a même pas voulu que je mette dans le titre « Dialogue avec le vicomte David Desquenvilles ». C'est de la gueule, non ? Le vicomte David Desquenvilles. Il me pose une question, il me dit « En avez-vous assez aujourd'hui, comme vous l'avez déclaré dans un précédent entretien, de tenir le rôle du, ouvrez les guillemets, mulet de l'architecture, fermez les guillemets, ou de la, ouvrez les guillemets, cible de fête foraine, fermez les guillemets ?» Réponse, j'ai dit ça. Question suivante. Vous avez dit aussi qu'il y avait plusieurs types d'architectes. Le poulet sur une autoroute, le lièvre dans la forêt ou le renard dans le maquis. Lequel seriez-vous ? Réponse, j'ai dit ça. Vous voyez un peu la fourberie de ce pamphlet. Hein, voilà. Allez, vas-y, lis-moi les passages.
Alors, effectivement, si tu peux retirer tout ce que tu as dit, ça enlève de la force non, à ce que je vais lire, par exemple.
Ça n'arrive que deux fois dans ce livre.
Oui, mais alors, non, on commence par l'enseignement, non ?
Non,
l'enseignement,
c'est trop sérieux.
On en parlera plus tard. Non, moi, ce que je voudrais, que si on commence par le doux, le sensuel, j'ai pas envie qu'on relise ton texte, j'ai envie que tu nous parles de ce chemin que tu as fait, qui est un chemin identitaire exceptionnel et accompagné notamment par l'ingénierie, par ton fils, par ce qui produit ce béton, etc. Bon, ça c'est, pour nous, c'est le cœur du métier.
Alors, d'abord, moi, je dis que si je suis là, c'est pour aider un libraire à vendre des livres. Ouais. Ça vous paraît incroyablement profane, mais il faut que les libraires vendent des livres pour faire travailler la chaîne éditoriale française, c'est-à-dire des imprimeurs français, des éditeurs français, des distributeurs français, etc., etc. Alors, je sais que le patriotisme vous choque, mais comme moi, je suis un architecte totalement réactionnaire, c'est très important pour moi, je le dis. Et donc, ces livres-là, qui sont à la vente chez monsieur, pas cher du tout, sont des livres sur lesquels vous allez beaucoup rire. Parce que toi, tu lis assidûment, tous mes pamphlets, chaque fois, ils se font la gueule. Mais le problème, c'est que c'est un bon public, Olivier, tu vois, il est toujours
non,
dans
mais
sa
parce
même
que
j'ai rien dit, se font la gueule, alors, tu vois. Mais tu as rigolé, quand même, hein.
Non, mais j'aime bien quand tu dis sans mesure d'expertise, on enseigne le thermique, le sismique ou les mathématiques avec une incompétente arrogance méritant gifle, la main bien dure et bien à plat. Eh bien, moi, quand tu attaques sur des choses comme ça, bien sûr, ça me fait rire. Mais le fond de la question, pour moi, évidemment, il est sérieux. Ce qui fera que on va différencier le style, au fond, et le contenu.
Bon, alors je vois un passage, hein. Je suis un fervent défenseur, le type il se lit lui-même, il faut le faire quand même, hein. Le pathos, quoi. Je suis un fervent défenseur d'une architecture au croisement de la dimension primitive du béton et de l'ingénierie la plus spectaculaire. Alors ça veut dire quoi ? Donc, partir de ça,
oui.
Par exemple. D'abord, moi, je pense que c'est important qu'une architecture porte l'odeur. Ça va, le micro, c'est bon. Qu'une architecture transpire l'effort. Moi, j'aime le labeur. J'aime l'architecture laborieuse. Je n'aime pas la facilité. Il y a une grande partie du pamphlet où je me farcis le minimalisme sur lequel je pourrais développer. Hein. Mais j'ai même imaginé qu'il y avait une convergence entre salafisme et minimalisme. Il faut atteindre un sacré niveau de lucidité ou de paranoïa pour en arriver là. Hein. Mais la démonstration, pour moi, elle est très claire. C'est-à-dire la rétention du récit, la rétention du signe, l'interdiction de séduction, l'interdiction du plaisir, et puis à la clé, qu'elle plaît, un faux bénéfice moral qui serait celui de l'exercice en pudeur. Ce qui fait dire à William Blake que la pudeur n'est que le masque de la vanité. Et la conséquence, comme dit Blake aussi, c'est que cette rétention-là ne fait que produire la pestilence. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, l'architecture souffre aussi de cette pestilence, c'est-à-dire cette idée, dans un manteau extrêmement sobre, dans le sens le plus accablant du terme, entre le corps, entre les os et la peau, bourré de laine de verre, c'est l'isolation par l'extérieur, comme métaphore de la pestilence. Voilà. Et c'est vrai que 60 ans, on pourrait dire, après le Bauhaus, moi, tu vois, j'en suis arrivé à penser que le Bauhaus, c'est une erreur historique, que c'est dramatique. Que le Bauhaus, dans sa perspective politique, dans son emportée politique, qui a eu l'air de considérer que le décor, le récit, la narration était l'attribut de la scène bourgeoise, portée par une épopée politique marxienne, a produit 60 ans après des catastrophes quand même, tu vois, des catastrophes. Et je pense d'ailleurs à cet enfoiré d'Adolf Loos, dont j'ai écrit dans un autre pamphlet qu'on aurait dû le buter de son vivant avec un Caribe 44 à crosse en acre ciselé floral pour avoir écrit cette phrase insensée, l'ornement est ton crime. Le même qui fait quand même l'American Bar à Vienne, vous avez tous vu, hein. Il faut l'écrire quand même, l'ornement est un crime. Est-ce que vous vous rendez compte du crime que constitue cette phrase, l'ornement est un crime? Lequel, Adolf Loos, et ça c'est un chercheur qui me l'a dit, mais j'ai jamais retrouvé le texte, lequel Adolf Loos écrit aussi que le signe, est EST, l'attribut des civilisations primitives. C'est-à-dire que lorsqu'Adolf Loos écrit ça, il met en perspective sur un boulevard ce qu'on appelle le racisme cognitif, qui s'installe dans l'esprit des universités et prospère. Ce qui permet à des journalistes comme Le Monde, il y a une semaine, qui parlent de la ville de la Grande Motte et qui disent que c'est une ville de plouc parce que les gens se baladent en maillot de bain et en short. C'est-à-dire aucun recul, aucune mauvaise conscience, très loin de Jean Valjean avec le pied sur la pièce de 5 sous, c'est-à-dire aucune culpabilité à émettre des propos organisé sur une fréquence qu'on peut appeler le racine cognitif. Ça, c'est incroyable quand même. Et ça, ça prospère dans les universités. Et ça continue à marcher. Que les universitaires soient colonisés par le modèle marxien, qu'ils soient totalement débordés par la névrose situationniste, pour moi, c'est pas nouveau, tu vois. C'est pas nouveau. Je pense que c'est vraiment un des sujets, une des pathologies sur laquelle il faudra demander des médecins de nous guérir, c'est-à-dire la névrose situationniste. Oui, vous savez farcir les situationnistes, hein. Franchement, entre Sartre et Camus, c'est pas très difficile de faire le choix. Vous avez vu, il y a une polémique en ce moment qui a été relancée là-dessus, sur la mémoire de l'un et de l'autre. Mmh. Puisque Sartre, en gros, reprochait à Camus d'être un philosophe approximatif, et Camus répondait qu'il avait marre, qu'il était là, L.A.S., d'être jugé par des gens qui n'ont eu comme instinct révolutionnaire que de mettre leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Je peux vous dire, j'ai choisi depuis longtemps, vous le doutez bien, plutôt Camus que Sartre, tu vois, hein, voilà. Plutôt Pasolini que Keats, que Bergman. Plutôt Malaparte que Marx, vous voyez, voilà. Faut s'y habituer. C'est pas très obscène de faire des choix esthétiques comme ça. Alors, ces choix esthétiques amènent aussi à être dans une reconsidération du regard qu'on peut porter sur l'architecture. Voilà.
Et sur cette question de l'ornementation, justement, et ton travail est ambivalent.
Ambigu, même.
Ambigu. Parce que, justement, tu rejettes le Bauhaus sans rejeter tout ce qu'il nous a enseigné de pureté structurelle. Au contraire. Et justement, dans ton travail récent, j'en ai cité trois exemples, mais bon, une passerelle miraculeuse, le pavillon noir où tu t'essaies à l'exosquelette
qui a
20 ans,
le projet.
Et puis enfin, ce Mucem où tu as la
qui
fois,
a 11 ans,
voilà,
le qui projet.
A 11 ans, qui a où il y a à la fois une prouesse structurelle d'une pureté absolue, d'une exigence extrême, c'est je veux parler des portées, de la post-tension, etc., et où l'ornementation est complètement consubstantiel de la structure. Premier point, je pense que là, il s'agit de ton travail d'excellence. Par ailleurs, Chalin t'a attrapé, alors tu le critiques sur le poulpe retourné parce qu'il critique ton musée injustement, mais en revanche, il t'envoie une petite charge sur un immeuble à Paris où l'ornementation, à côté de la bibliothèque, est un ajout. Est-ce que tu peux parler ici peut-être de des choses essentielles dans cette ornementation structurelle, et puis aussi par moment, est-ce qu'il y a une écriture qui finit dans un certain type de projet ou de programme par tourner à une certaine gratuité?
Bon, d'abord, je ne sais pas, parce que Charlin m'égratigne un petit peu, que je vais lui en vouloir, parce que tu as vu ce qu'il a écrit récemment dans le Moniteur.
Magnifique.
Sur les quarts d'argent, quand même.
Il te rend un hommage,
oui,
absolument.
Oui, très fort, oui. Mais d'ailleurs, les quarts d'argent, je profite pour le dire, j'ai refusé d'y participer avec les Mucem, comme j'ai refusé d'y participer avec le Louvre, comme j'ai refusé d'y participer avec le musée Cocteau, etc., etc. Je me dis, pourquoi? Parce que là aussi, je voulais en terminer avec cette nauséabonde nostalgie moderniste. La modernité est un projet achevé. Moi, je ne peux pas collaborer avec ce genre de prix. Ce n'est pas possible. Il faut laisser ça pour les jeunes. Je leur dis, c'est pour les jeunes, par exemple. Voilà. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est épidermique. Tu vois, c'est comme si tu demandes à Tzahal de parler, de se mettre à table avec le Hezbollah. Tu vois, ce n'est pas possible. À un moment donné, c'est comme ça.
Tu n'as jamais eu l'écart d'argent.
Mais tu as vu, Charlin en parle. Mais je ne veux pas être nominé. Je ne veux pas, c'est clair. Je ne veux pas, c'est une position de doctrine esthétique. C'est exclu. Ils le savent, ça fait 4 fois qu'ils me demandent, 5 fois, je dis non, je ne veux pas. Ce n'est pas un luxe, ça s'appelle un engagement. C'est tout. Et puis je ne demande pas que mes confrères fassent pareil, tu vois, c'est pas le sujet, tu vois. Moi, des honneurs, j'en ai assez, ça va, j'ai tout eu, tu vois, c'est bon, ça va, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à aimer ce métier, à avoir des amis, à avoir des histoires d'amour, hein, à aimer, tu vois, le plaisir de la table, tu vois, le plaisir des loisirs, et surtout le plaisir de construire, rencontrer à nouveau ce récit, ce nécessaire récit constructif qui nous ramène à la dignité de ce métier. Et la question de la relation structure-enveloppe, qui est une pure fiction, dans la continuité de Mies van der Rohe, c'est-à-dire du mouvement moderne, aujourd'hui, selon moi, ne fait plus sens. L'affrontement structure-enveloppe est une nostalgie, un des ersatz, tu vois, de la doxa moderniste. Et je pense qu'on n'a qu'à voir l'architecture de terre, par exemple, ou l'architecture de pierre, pour comprendre à quel point cette distanciation a créé une schizophrénie qui a positionné nos actes professionnels dans la difficulté. Voilà. Et je crois qu'il faut refuser cette dichotomie. Il faut la refuser. Alors, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. D'un côté, on perd les métiers artisanaux. Et puis, on y contribue, nous. Hein. On est en pointe, hein, même, les architectes. Avec les artistes. Avec les graphistes. Avec les publicistes. Pour participer à cette esthétique de la globalisation, esthétique de la désolation, qui ramène le débat architectural à la couleur de la peinture appliquée sur la façade, rose ou vert. Hein? D'accord. Comme figure énigmatique de la distinction. Un mur blanc qui frappe à la perpendiculaire. Un sol gris. Il y a du vaudou là-dedans. Avec option plafond vert ou rose, tu vois. Mais sans déconner, mais ça va durer des années encore, ce cirque-là. Parce que finalement, nous, pris en flag de vecteurs les plus virulents de la globalisation, on participe en pointe à la destruction du métier davantage que le libéralisme, que le capitalisme. On est en pointe dedans. Et il faut quand même réaliser. On est mouillé jusque-là. C'est pas la peine d'aller pleurnicher au bistrot le soir en disant le maître d'ouvrage. Attends, c'est pas le maître d'ouvrage. C'est nous qui sommes tordus, fondamentalement tordus, fondamentalement colonisés. Voilà notre sujet sur lequel il faut qu'on s'étende peut-être ce soir. Colonisés, avec des postures de colonisés. Bien sûr, avec des postures même de soumission.
Empêché, peut-être. Oui,
moi,
tu dis l'architecte est plus psychopathe, quoi, que mégalomane, parce, oui, qu'il est empêché de faire.
Oui, oui, oui. Mais moi, je ne voudrais pas que cette conversation tourne à la dépression collective, hein, quand même. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Hein. Mm-hmm. En plus, ce serait vraiment des fourbes tous les deux, parce que, oui, nous, on n'est pas dans la dépression. Hein, donc, bon. Mais c'est vrai que dans ce pamphlet, il y a une critique, il y a aussi une autocritique d'une certaine manière, par le biais de la dérision, de l'humour. Tu vois, pas besoin d'avoir fumé un pétard pour se faire de la gueule quand tu lis ça. Hein. Tu le lis à l'état naturel, tu vois. Mais on ne peut pas faire l'économie de questions comme ça, tu vois, mon cher Olivier. On peut se poser des questions. Voilà. Ce comportement de, d'amnésie collective, de participation à la destruction de la mémoire du travail, de participation à la destruction des métiers, de lutte contre le récit, voilà, encore une fois, de refus de la narration et davantage de panique devant le désir de beauté, à tel point que nous sommes devenus des moteurs de l'exil de la beauté. Alors même que l'architecture française est au plus haut niveau, je le dis, parce que je crois qu'on peut tout me reprocher, parce que je suis profondément détestable, je le sais, pour X raisons. Sauf que, s'il y a vraiment un architecte qui défend la profession dans ce pays, c'est moi, je suis désolé. Et c'est pas nouveau, ça fait plus de 10 ans que ça dure, 12 ans, tu le sais Olivier. Eh bien, nous sommes devenus des moteurs de l'exil de la beauté. Parce que la beauté est effrayante. Parce que c'est un mot pornographique, beauté. C'est incroyable. Et putain, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça, elle n'est pas là, la névrose marxienne, quand même, ou la névrose situationniste, ça se pose un peu là, quand même, non? L'exil de la beauté, et puis à la clé, évidemment, la disparition des métiers qui la portent, et virgule, l'épuisement européen, virgule, et puis on va même rajouter dans la foulée, la fin de l'homme blanc, point d'exclamation, et j'ai marqué, d'ailleurs, faut-il en finir avec l'homme blanc? Tu vois, comme un projet esthétique. Tu perds les pédales au bout d'un moment, tu vois? Au bout d'un moment, tu perds les pédales quand tu fais ce constat, si tu es un peu lucide. Hein, je l'ai écrit, faut-il en finir avec l'homme blanc? Tu vois un peu les doutes schizophrènes, vous voyez un peu les doutes schizophrènes qui sont les miens. Hein.
J'ai pas bien compris pourquoi le minimalisme
me tape sur les nerfs.
Revenait. Attends, oui. Pourquoi aujourd'hui ça revenait te taper sur les nerfs? Parce que ça me semble une lutte déjà accomplie. Et personnellement, j'ai d'autres ennemis qui nous empêchent en architecture. C'est plutôt, au contraire, le foisonnement d'équipements. Tu l'abordes les questions de nouvelles, des règles de construction, des règles d'isolation, des règles de bien-pensantes concernant tout ce carcan au fond qui ne produit. Jamais le minimalisme, mais au contraire, quelque chose qui s'en va vers le bavardage.
Alors, j'ai fait un autre pamphlet qui s'appelle HQE, les renards du temple. Je pense que l'éditeur doit l'avoir, le libraire, je pense, ces livres noirs, où j'avais longuement abordé ces questions, qui est réédité, où je parle de la surréglementation et de la connexion qu'il y a entre la manière de taper le pognon, piller les budgets opérationnels, par le biais de la surréglementation, laquelle surréglementation est initiée par des lobbying qui ont la porte ouverte à l'intérieur des territoires administratifs qui articulent la norme. Alors ça, c'était un pamphlet assez très subversif, hein, quand même, hein, qui a été énormément acheté, où je citais des noms, je pensais même avoir des procès, j'ai pas eu de procès. Ce qui est assez incroyable, c'est que tu peux tirer à bout portant sur quelqu'un dans ce pays, il n'y a personne qui t'arrête pour te lever le flingue. J'ai tiré là-dedans, je parlais des commissions du Grenelle de l'environnement, j'ai même écrit un rapport à Borloo que j'avais fait avec Claude Vasconi et Francis Soler, et moi j'avais rédigé la part la plus radicale de ce rapport. Mais évidemment, on dénonçait le consumérisme consécutif à la surréglementation, où j'écrivais même que les conséquences du Grenelle de l'environnement seraient totalement inversement proportionnelles aux cibles annoncées. Et on le sait, c'est ce qui se passe. C'est que plus on augmente la contrainte juridique en matière de performance, et plus on augmente l'empreinte environnementale. C'est assez incroyable. Mais qui peut entendre ça? C'est-à-dire que l'empreinte environnementale consécutive à la surréglementation croît de manière exponentielle. J'avais sorti cette fameuse phrase il y a 7-8 ans, que pour produire une pompe à chaleur, on réchauffe davantage l'atmosphère que le propriétaire. Hein, pour fabriquer une pompe à chaleur dans laquelle qui est bourrée d'inox, quelques métaux rares, de matériaux comme l'aluminium, des matériaux dont l'empreinte environnementale est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus travailler de l'aluminium avec de l'acier, ça ne veut pas dire ça du tout, mais y avoir la juste mesure. Alors moi, cet aspect, je l'ai abordé dans l'autre pamphlet. Là, ça porte plus sur la question, la relation entre esthétique et politique, et aussi les méandres d'une bureaucratie qui a muté comme un virus et qui aura compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son propre territoire existentiel, de sorte d'imaginer dans la plus large paranoïa, prenez-le comme vous voulez, que cette bureaucratie, non seulement consécutive à l'invention de la démocratie, mais consécutive à l'idée du plaisir de vivre ensemble, commence par détruire le plaisir que nous avons à vivre ensemble, s'attaque au fonctionnement démocratique, y compris par un instinct incroyable d'autodestruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les fonctionnaires des collectivités territoriales se sentent menacés de l'intérieur. Moi, j'ai des amis qui sont militaires, qui ont peur, mais vous vous rendez compte, qui ont peur des officiers Saint-Gallon. C'est ce que ça veut dire, qui ont peur. Tout le monde a peur de tout, parce qu'il y a un mécanisme de paranoïa collective qui s'est engagé et qui détruit le plaisir de vivre ensemble. Alors, il va imaginer, par voie de conséquence, que l'art de construire pour nous tous est dans l'ombre portée de cette espèce de pathologie. C'est tout. Alors, ça, c'est très pessimiste ce que je dis, mais bon, je pense qu'on va s'en sortir, mais pas de suite. Hein. Parce que ça, quand je dis ça, tout le monde a compris. J'ai un copain CRS qui est un chasseur, j'ai un ami CRS, ça ne vous dérange pas. Tireur d'élite en plus, il chasse, bon, il me fournit en grive, en bécasse, bon, en lapin de garenne, etc. Il me dit, mais je ne sais plus quoi faire. Il me dit, je ne sais pas quand je dois utiliser la matraque, qu'est-ce que je dois dire s'il vous plaît, d'abord, et pardon, et puis donner un coup. Il me dit, c'est pas possible, tu vois. Il me dit, je ne sais plus. Il me dit, j'ai peur. Hein, vous vous rendez compte, si les militaires et les CRS ont peur, où allons-nous? Alors imaginez les intellectuels qui sont habitués à faire des pipes aux mythologies et à l'impérialisme anglo-saxon. Imaginez! Lorsque je dis à l'Express dans un interview, le problème de la gauche aujourd'hui, c'est ces cultureux qui font des pipes aux mythologies et à l'impérialisme anglo-saxon. Ça sort texto dans l'Express. Putain, je reçois un coup de téléphone de Jacques Médic, vous vous rappelez? Ancien ministre de Mitterrand, qui est un ami... type vachement bien, même s'il conduit sa voiture un peu rapide. Trop vite.
Oui. Un homme rapide.
Qui roule à 230 km/h en moyenne sur l'autoroute. Et qui me laisse un message suivant, il me dit, t'as raison, Rudy. Le problème de la gauche aujourd'hui, ce ne sont pas les travailleurs, ni les politiques. Il me dit, ce sont les cultureux. Voilà, voilà une vraie question avec une grande profondeur politique, une grande profondeur esthétique. Et si ce n'était pas les cultureux qui seraient responsables de la régression intellectuelle de la pensée de gauche, peut-être, non? À cause de quoi? Du politiquement correct, de la bien-pensance, etc. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on en est à un point où un artiste de combat, s'il déclare au micro qu'il est contre la guerre dans le monde, c'est un héros. Et si en plus il augmente sa déclaration par un petit zazibao sur le mur, sur lequel il met la gueule de George Bush, Saddam Hussein, etc., Hitler, je ne sais pas quoi, et qu'il dit qu'en plus, il est contre le sida, tu dis, putain, tu es contre la guerre, contre le sida, mais tu as des couilles comme ça. Hein? Et tu n'as pas encore quelque chose à rajouter? Oui, je suis contre la faim. Putain, alors tu as un cœur comme ça. C'est un peu ça aussi, notre perspective esthétique globale quand même. Mais vous savez, comme disait Gilles Mahé, plutôt de vous faire marrer, je préférerais vous inspirer. Voilà, c'est tout. Non, moi, je vais vous dire, j'ai 61 ans. J'ai 3 enfants, je suis grand-père 3 fois. Je ne peux pas me résigner à l'idée que ce pays, avec une masse intellectuelle critique phénoménale, quand même, puisse se résigner à sombrer dans le politiquement correct, à l'esthétiquement correct, sans réagir. Tu ne peux pas le penser. La France est un pays révolutionnaire. Tu ne peux pas croire à ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. On ne va pas continuer à se laisser sodomiser frontalement avec le sourire sardonique de la Joconde, sans protester tout de même. Donc, le pamphlet parle de ça. Du refus de la sodomie frontale avec le sourire sardonique de la Joconde. Voilà. Et si vous avez quelques critiques à faire... Mais d'abord, lisez le pamphlet, après vous pouvez me téléphoner, m'envoyer des mails d'insultes, tout ça, je suis prêt à les recevoir. Hein? Après, tu veux qu'on parle de l'enseignement?
Non, non, d'abord sur cette question, justement, de qui te choisit, qui choisit les architectes. Tu relates ce que nous avons vécu tous, des difficultés, notamment au Louvre, la pesanteur de cette bureaucratie culturelle dont tu parles.
Satanique.
Voilà. Donc tout ça, ce sont des histoires qui, au fond...
Je les ai massacrées,
l'administration
du Louvre.
Voilà, tu les massacres là-dedans, le Louvre, et tu lui règles son compte. Et puis tu fais quand même un magnifique tapis volant doré au cœur du Louvre.
Un escalier aussi.
Et un escalier
sublime, c'est ça.
Sublime.
Moi, je préfère l'escalier, voilà, même à la couverture.
Donc tu y arrives. Et puis à d'autres moments, au MUCEM, la dernière lettre, j'espère que tu en donneras lecture, la lettre au président du MUCEM, tu montres bien que tu as des difficultés avec lui, mais tu y arrives merveilleusement. Donc ce que je... L'optimisme que je voudrais donner, notamment aux étudiants, c'est que ton histoire, grand format, à petit format, elle existe aussi. Voilà. Et que ce que tu dis là-dedans, c'est...
Mais ça concerne tous les architectes.
Ça concerne tous les architectes.
Bien sûr.
Et tu dis une chose très juste, la difficulté, c'est de le rester architecte, c'est-à-dire contre vents et marées, dans les adversités que tu dis, que
tu décris. Il faut le dire aux jeunes, mais c'est facile de devenir, mais c'est beaucoup plus difficile de le rester. Il faut leur dire.
C'est ça.
Tu sais, c'est comme le fameux truc de Pythagore, là. Nul ne peut rentrer ici s'il n'est que géomètre, mais nul ne peut rester ici s'il n'est que géomètre. Il faut le dire aux jeunes. Je voudrais juste leur dire aux étudiants que c'est pas à vous de bouffer le métier, c'est à vous de tenter d'honorer le métier. Un peu de messe. C'est un très très beau métier. Mais honorez-le, ce métier. Hein ? Soyez comme des avocats, honorez ce métier quand même, tu vois. Voilà, quand même, tu vois, un peu de comment dire, affection, comme on dit, tu vois, en tauromachie, quand même, tu vois. Il y a un peu de passion, tout de même. Et puis le métier, il vous le rendra. Mais il ne vous le rendra pas immédiatement. Voilà.
Et donc, ce que tu dis à très haut niveau, tu vois, plein de petits projets culturels, petite médiathèque, petite école dans un coin, tant de choses qui définissent cette architecture qui se développe sur tout le territoire. Et dont tu es, d'une certaine manière, le héros, je le disais au début. C'est la parole. Alors, quelquefois, la parole dépasse ce que pourrait dire un architecte à son commanditaire. Ouais. Nous sommes d'accord. Tu envoies des salves qui sont à la mesure de la situation que tu diriges, au fond.
Mais d'abord, parce que je vois que tu veux que je te lise des courriers. Mais vous savez, d'abord, une chose, que l'épistolaire, c'est le courrier. L'épistolaire est protégé par la loi... depuis une jurisprudence des années 1920. Parce qu'un jour, je m'en rappelle, j'avais écrit à un expert près des tribunaux qui m'avait convoqué un assédite et qui m'avait demandé de prévoir une table avec 6 chaises. Il s'appelle Jules Machin. Et j'avais dit, cher Jules, virgule, gros con. Point d'exclamation. J'ai dit, tu me prends pour ton larbin ? C'est tout. Alors, il avait déposé une plainte à l'ordre des architectes. L'ordre des architectes avait bien examiné la plainte. Il en avait déduit qu'il n'y avait rien à procédurer puisque l'épistolaire n'est pas puni par la loi. Je vous le dis, ça fait du bien. C'est bon pour la rate, pour le foie, pour les intestins, pour les cheveux, pour la peau. Ça a beaucoup de qualité. Alors, je vous en lirai un épistolaire. Il y a une très grande cinéaste qui s'appelle Laetitia Masson, qui est une mère de famille. Laetitia Masson, qui est cinéma underground français, un peu, vous connaissez. Hein, elle a fait pas mal de films, Alexandre Kiberlin, enfin... Gianni, etc., pour les amateurs, pour les cinéphiles, c'est une réalisatrice assez intouchable, qui a un travail très particulier. Enfin bon. Donc, un jour, je reçois un coup de téléphone de mon assistant parce que Madame Masson a été ceinturée par les mecs sur le chantier, par le personnel du lot, par les ouvriers, hein, évidemment, par les travailleurs, par les bureaucrates de la culture. Ceinturée parce qu'elle avait sa caméra et qu'ils avaient l'impression qu'il lui volait quelque chose. Dans la minute qui suivait, j'étais informé par mon chef de projet qui était sur place et j'ai envoyé ce courrier au président du Louvre. Cher président, au-delà de l'incompétence de la maîtrise d'ouvrage interne à votre établissement, au-delà de sa faculté de nuisance permanente depuis l'origine de l'opération, il semble que vous n'ayez nullement compris que je n'envisage aucunement de vous demander l'autorisation pour faire des photos, filmer ou communiquer sur le fruit de mon travail. Aujourd'hui encore, dans un climat d'hystérie et de violence digne d'un film de fiction militaire ou nucléaire et de paranoïa totale, vos services sont intervenus pour faire cesser une prise d'image. Cette prise d'image est effectuée par la grande cinéaste Laetitia Masson, dont le raffinement culturel est à mille lieues de votre personnel. Laetitia Masson, sur ses propres deniers et avec mon accord, procède à la fabrique d'une mémoire d'image de mes chantiers. Son regard et sa présence honorent mon travail. Et je lui en suis particulièrement reconnaissant. Aucune maîtrise d'ouvrage n'a développé autant d'entraves à ce type d'exercice culturel, sauf la vôtre. En l'état, et comme cette agressivité n'est pas nouvelle, je change donc ma position sur les droits d'image et vous confirme ne céder aucun de ceux-ci sur quelque partie que ce soit du projet. Je dois ajouter que ce qui me choque le plus sont la profonde vulgarité et bêtise renouvelée de vos services sur ce sujet. J'ai donc le projet de demander à Jean-Pierre Mocky de venir filmer dans ce musée, sans votre autorisation, une scène pornographique entre Laetitia Masson et moi, sentiment distingué, Rudy Ricciotti. Copie à ministre, évidemment. Copie
c'est ministre. Copie c'est la mise. Fin du livre. Hein.
Copie, ouais.
C'est la dernière. Fin du livre.
Copie et mise à la culture. Alors c'est marrant parce que juste une heure après, je recevais une réponse de Laetitia Masson, qui est très timide, elle m'écrit un tout petit, elle me dit « Moi, je suis d'accord. » Elle est géniale. En plus, j'ai découvert entre-temps que Jean-Pierre Mocky était propriétaire de cinéma X à Paris. Ça, je ne le savais pas. Mais je ne savais pas. Voilà, enfin bon, il faut bien rigoler de temps en temps. Je le dis aux jeunes, hein, il faut trouver les espaces pour le rire, autant que les espaces pour la transfiguration et le récit constructif. Voilà. Et pour ce qui concerne l'enseignement, parce que je me suis mis les enseignants en dos, parce que dans HQE, les renards du temple, je les ai bien brossés, hein. Qu'est-ce que je leur ai
et
mis
là aussi.
Et là aussi. Et là dessus, oui, c'est surtout là.
C'est terrible.
Biscrit, c'est terrible.
Moi, à l'époque, j'étais président de l'école. Tu voulais me prendre un croc de boucher. Je me suis dit, je lisais ça de nuit. Je t'ai appelé pour dire, non, est-ce que tu le crois vraiment? Mais il y a autre chose que tu dis là-dedans. C'est que, non, là-dessus, sur l'enseignement, il faut y revenir parce tu écris des trucs incroyables et qui, évidemment, sont très agressifs, mais
pas que
très,
ça.
Très amusants aussi. Et autre chose. Là où tu viens ici, tu honores plusieurs fois des enseignants de manière extrêmement juste, ouais. Et notamment Jacques Condelatte. Ouais. Voilà. Et là, tu réintroduis d'abord du sentiment et puis un sens assez précis de ce que pourrait être l'enseignement. C'est-à-dire, ce que tu supportes pas, c'est les faux-semblants. C'est les approximations, mais en même temps, tu ne peux pas ignorer que... là, c'est une question... tu ne peux pas ignorer que l'architecture aujourd'hui se nourrit de toutes les disciplines que par moments tu balais, mais que ça soit bien fait ou mal fait, on peut en discuter, mais forcément, le métier d'aujourd'hui, et peut-être qu'on peut dire deux ou trois mots de l'urbanisme en particulier, le métier d'architecte aujourd'hui est très divers. Et la seule posture de l'artisan, de l'ingénieur solitaire ne peut pas marcher. Hein, on est d'accord. Donc forcément, les écoles sont... pluriel et amène la sociologie. Par exemple, dans celui-là, tu t'en es pris tout d'un coup au sociologue, je crois. Et puis avant, c'était à d'autres. Enfin, néanmoins, nous sommes tous associés sur le même tarmac. Et au fond, c'est un peu... si on le prenait à la lettre, peut-être j'ai des collègues qui diraient « Non, mais chassez-le. » La vérité, c'est pas ça. C'est que toi, tu démontres dans ton travail, tout le temps... des relations, bon, avec l'ingénieur j'en ai parlé, avec les artistes, avec les écrivains, avec les philosophes, etc. Et à d'autres moments, il y faut d'autres, des paysagistes, il faut des sociologues, il faut... Voilà.
D'abord, je t'ai évité un malentendu, je cogne depuis longtemps sur les enseignants, mais beaucoup moins dans ce livre, parce que je pense qu'ils ont la robustesse pour prendre des coups. Surtout, ils ont un métier protégé, hein. Il ne faudrait pas perdre de vue. Alors qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de métier protégé. Aujourd'hui, un enseignant, il ne peut pas se retrouver au champ du jour au lendemain. Juste remettre un contexte économique et social. Hein. Parce que ça me rappelle, un jour, j'étais dans la jury de nomination des professeurs. Il y avait un architecte qui avait proposé un truc avec des éoliennes, des bâches en plastique, des bouts de bidon, enfin, un fatras de saloperie, tu vois. Et je lui dis, mais c'est quoi votre projet pédagogique? Et puis il me dit, c'est mettre les étudiants dans la difficulté et les positionner dans la précarité constructive. Et je lui réponds, je dis, donc pour enseigner la précarité constructive, ce que vous voulez, c'est un poste, c'est un salaire à vie, quoi. Vous trouvez ça vulgaire, ma réponse? Hein? Bon. Alors, que ce soit clair, moi, je pense que les enseignants se sacrifient. Ils sont nombreux à se sacrifier. Ils sont rares ceux qui, comme Olivier Brochet, se sacrifient à l'enseignement et en même temps réussissent leur carrière. Parce qu'il y en a beaucoup. Je pense à Georges Hentz, je pense à Hervé Bagot, je pense à Barthaud, qui sont aussi carrément en difficulté, je pense à Jacques Condelatte, etc. Hein, d'accord. Et, que ce soit clair, François. Enfin bon, plein d'amis. Hein, ne croyez pas que j'ai que des ennemis dans le monde de la pédagogie. C'est un projet, c'est un procès esthétique que je leur fais. Parce que d'un côté, ce que je reproche, c'est d'un côté d'être cette machine à fabriquer de l'autorité sur les enfants, et de l'autre côté, d'être dans une écologie colorée, c'est-à-dire l'écologie additionnelle. En gros, en mi-chemin entre pédocratie et chlorophylie. Voilà une grande avancée, une perspective théorique, à mi-chemin entre pédocratie et chlorophylie, de l'art d'exercer de l'autorité sur les enfants, de l'autre côté, dans un consumérisme vert, tu vois. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on puisse être agacé aussi, tu vois.
Oui.
Mais je vais quand même rebondir sur ce que tu disais sur le caractère interactif des champs disciplinaires. Olivier a tout à fait raison de rappeler qu'on n'est pas architecte seul. C'est totalement impossible. On est comme dans un accordéon. Il y a plein de plis dans l'accordéon. Et notre responsabilité, c'est que tous les plis soient bien garnis, respirent bien ensemble, et que l'air circule bien dedans pour que ça crée un son harmonieux. Voilà. Et c'est pas l'inspiration, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Le secret de l'architecture, c'est ce que c'est ? C'est le travail. C'est l'anxiété. C'est la paranoïa. Vous voulez que je développe ? C'est le travail. Parce que la facilité, c'est pas parce que tu as peint un mur en blanc qui fait la jonction perpendiculaire avec un sol en gris que tu es un architecte distingué. Tu es une feignasse, c'est tout ce que tu es. T'as compris ? Une feignasse, tu n'es rien d'autre. Ça, c'est pour le travail. Le deuxième, sur la paranoïa, c'était ça ou l'anxiété, j'ai dit ?
D'abord, l'anxiété.
C'est que moi, je pense que le contexte est là pour nous faire la peau. Que si vous ne voyez pas la dangerosité du contexte, si vous y allez la fleur au canon, vous allez vous ramasser. Et d'ailleurs, on se ramasse. Moi, je me suis ramassé. Je veux dire, le contexte, il faut en prendre la mesure. Le contexte, il est complexe. Il faut le voir comme un loup qui est prêt à te bouffer. Tu vois ? Il va te bouffer, le contexte. Et c'est comme tu es dans le mur, tu mets la main dans le trou, il faut aller ouvrir la poignée, peut-être il y a des araignées, il y a des serpents, donc tu ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Hein ? Il faut être extrêmement prudent. Et donc, la gestion de cette prudence consécutive à l'anxiété, c'est la paranoïa, comme un instinct de survie. Il y a un économiste anglais qui a écrit cette phrase incroyable. Économiste, c'est mathématicien. Hein. Ce n'est pas économiste qui fait les descriptifs dans les CAP. Hein, qui a écrit cette phrase incroyable. « Tomorrow, only paranoiacs will survive. » Vous vous rendez compte ? Demain, seuls les paranoïaques survivront. Tu t'en rends compte ? C'est un truc de fou, hein, cette phrase. C'est un point de vue de mathématicien. Vous vous rendez compte ? Donc soyez tous parano à bloc. Hein ? À bloc. À bloc. Voilà. Allez, merci.